Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et 01 TV présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque week-end, vous le savez, sur BFM Business. Le week-end à la radio, à la télé, sur tous les écrans et puis bien sûr sur la chaîne 01 TV, sur 01net.com et sur la chaîne YouTube aussi de 01 TV pour votre petite heure dédiée à la tech. On va survoler, nous intéresser à toute l'actu technologique de cette semaine qui est très chargée. Et puis je vous rappelle aussi, bien sûr, comme à chaque fois, vous pouvez nous rejoindre sur la page Twitter de quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM. On est là aussi sur Facebook. Merci de nous suivre comme chaque semaine et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et donc un méga giga club de la presse IT avec eh bien nos giga journalistes quand même, non pas par le volume mais par le talent, vous l'avez compris bien sûr. Anthony Morel est avec nous, salut Anthony.
Salut François.
Ravi de te retrouver après ces quelques jours de relâche, hein, on a pris quelques jours de vacances et puis on est très heureux bien sûr de vous retrouver. Anthony que vous écoutez, regardez sur BFM Business bien sûr, mais aussi sur RMC,
oui, chez
RMC Story tous les jours et Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net. Salut Éric.
Hello.
Alors, l'actu d'aujourd'hui, elle est quand même assez chargée, les amis. On a plein de choses à se raconter et on va commencer par un certain Elon Musk. Elon Musk qui, bien sûr, au-delà de toutes ses frasques sur Twitter, s'est dit, bah tiens, puisque je parle beaucoup sur Twitter et que j'ai combien 80 millions d'abonnés, je crois.
Oui, 80 millions d'abonnés.
C'est ça.
C'est
hein
un des plus gros comptes.
Ben voilà, si je devenais l'actionnaire principal de Twitter.
Bah oui.
Voilà.
Tout tant qu'à faire. C'est le genre de truc un peu trollesque que seul Elon Musk peut se permettre de
mais
faire.
Mais bien sûr. Et puis ça passe crème.
Et ça
c'est
passe
ça qui
crème.
Est top.
Non mais c'est marrant parce que quand vous et moi on va sur Twitter et qu'on s'énerve un peu, tu vois, ça m'arrive des fois, ça m'énerve. Hein, bon, tu tweets un truc, tu fermes l'application. Elon Musk, lui, il s'énerve. Bah, il rachète l'application. Voilà. C'est la différence entre lui et nous, tu vois. Et
alors, bon, il rachète 10%.
Alors, il rachète 10%. Non, t'as raison. Ouais. 9%, ce qui doit lui coûter à peu près 3 milliards, ce qui est à peu près de l'argent de poche hein, pour ouais. Elon Musk. Hein. Bon, voilà. Mais c'est pas juste.
Il y a une fortune qui est évaluée à plus de 280 milliards.
Oui, oui, c'est ça. Enfin, ça dépend en fonction de l'action Tesla, en fait. Hein, donc, ça fluctue ça. Beaucoup. Enfin, c'est l'homme le plus riche du monde, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est que, entre guillemets, 9%, mais on comprend bien que l'intention derrière, c'est quand même d'avoir une position d'influence. Et d'ailleurs, en échange de ces 9%, il a eu un siège au conseil d'administration qui lui a été cédé. En échange de la promesse qu'il ne prendrait pas de participation majoritaire, donc il ne prenait pas le contrôle total de Twitter. Mais enfin, on comprend bien qu'il fait ça pour avoir de l'influence sur Twitter. Pourquoi
et pas faire que de la figuration, comme tu dis.
Ah ben non, voilà. Clairement. Parce que, en fait, c'est très intéressant, parce que tu disais 80 millions d'utilisateurs, il se sert beaucoup de Twitter, il tweet énormément toutes les annonces de Tesla, de SpaceX, de Neuralink, il les fait, ou en tout cas, il les tease via Twitter, c'est vraiment sa plateforme de communication favorite. Et puis, il troll beaucoup, il y a beaucoup de trolls, de tweets un petit peu mystérieux, cryptiques, humoristiques, etc. Mais à côté de ça, il a une histoire un peu compliquée, c'est-à-dire qu'il n'aime pas tellement Twitter en fait, la façon dont Twitter fonctionne. Il dit que Twitter ne respecte pas vraiment les principes de la liberté d'expression. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, avant le rachat, il avait soumis ses abonnés à un vote en leur demandant « Mais est-ce que vous pensez que Twitter respecte les principes de la liberté d'expression ?» Voter soigneusement, disait-il, ça va être important. Je le traduis grossièrement. On n'avait pas compris que ça va être important. Ça veut dire, vous votez non, je rachète Twitter. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, peut-être qu'il l'aurait racheté quand même. Hein. Mais en gros, il y a cette idée de reprendre le contrôle pour les utilisateurs de Twitter. C'est-à-dire, dans son idée, enfin, c'est en tout cas lui ce qu'il expliquait dans les tweets qu'il a publiés, rendre tous les algorithmes en mode open source, c'est-à-dire donner la possibilité aux utilisateurs de regarder un peu dans la boîte noire, de voir pourquoi on leur propose tel contenu plutôt que tel autre, en priorité plutôt que tel autre, et donc faire de Twitter qu'il estime être un pan important de la démocratie aujourd'hui, vraiment quelque chose qui respecte les conditions de la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, il y a toute sa réflexion derrière cet achat qu'on pourrait croire impulsif et en tout cas assez étonnant.
Eric.
Oui, c'est vrai que Elon Musk, c'est quelqu'un d'assez particulier. On l'aime ou on ne l'aime pas. Alors, on peut l'apprécier pour tout, ses, pour tout, c'est tout ce qu'il a fait en matière d'exploration spatiale, de véhicules électriques, etc. Là, effectivement, Twitter, comme l'a très bien dit Anthony, c'est un, peu son, c'est un petit peu son joujou, en fait. Il a effectivement 80 millions d'abonnés.
Un peu, là, hein
et on a l'impression qu'il fait un petit caprice parce qu'effectivement, il n'aime pas certaines règles de Twitter. Il trouve que Twitter est un peu trop, pro, hein, trop prompt à censurer certains discours qui, lui, en bon libertariens considèrent comme complètement normaux. Et ça risque quand même, cette prise de participation massive dans Twitter, de provoquer quelques remous en interne. Moi, je me dis quand même qu'il se pourrait, parce que là, pour l'instant, on a vu le patron de Twitter, le PDG de Twitter actuel, hein, qui n'est plus Jack Dorsey, dire oui, on est très content d'accueillir Elon Musk. Et puis Jack Dorsey aussi, qui est en train de s'éloigner doucement de Twitter, a dit aussi on est très content d'accueillir Elon Musk, mais j'aimerais bien quand même être une petite souris et assister à certaines réunions, certains meetings avec lui. Ah oui. Parce qu'on voit déjà, et ça c'est, et alors bon, Twitter a vu qu'il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé depuis qu'Elon Musk est arrivé, c'est que Elon Musk a fait un autre sondage il n'y a pas longtemps, est-ce que vous considérez que Twitter devrait avoir un bouton edit? C'est vrai que c'est une fonction que tout le monde réclame depuis des années
l'arlésienne
sur Twitter,
de l'arlésienne, Twitter.
Ouais. Un bouton d'édition des tweets.
Et il l'a fait avec, t'as vu, avec, pour ceux qui nous regardent, en plus, il a mis des fautes d'orthographe exprès dans le tweet pour insister sur le côté fonction éditée. C'est marrant.
Ouais, c'est effectivement, drôle. C'est bien vu. Et effectivement, bon, tout le monde a voté oui, évidemment. Et qu'est-ce qu'on a vu, genre quelques heures plus tard, évidemment, Twitter qui dit nous sommes en train, et c'était un 1er avril en plus qu'ils ont annoncé ça, donc on a cru que c'était une blague, hein, évidemment. Nous sommes en train de travailler à un bouton edit. Et effectivement, c'est vrai, ils sont en train de plancher sur un bouton edit qui vont d'abord lancer. Donc, on va pouvoir enfin corriger ces fautes de frappe sur Twitter si on a fait une erreur. Et ils vont lancer ça dans les semaines qui viennent. D'abord pour les abonnés payants, service
Twitter
payant. Mais on voit déjà que sans doute, peut-être que Elon Musk a dû dire hey, j'aimerais qu'on avance un petit peu là.
Ouais,
sur
allez, les gars.
Cette fonction d'édition des tweets, parce que moi, ça m'ennuie beaucoup.
Je suis monsieur 9% maintenant. Hein, donc,
C'est clair. Je sors ma petite pancarte.
Voilà, 9%. C'est ça. Ouais. Qui est contre Ok, allez. Sujet suivant.
Non, c'est clair, ça va être super. Enfin, vraiment, participer au conseil d'administration, là, ça va être génial.
Oui. Moi, j'aimerais qu'on revienne quelques secondes sur cette fonctionnalité qui pourrait arriver, donc du bouton Edit. Mais ça va changer pas mal de choses quand même dans Twitter. Parce qu'aujourd'hui, on voit. On supprime un tweet, mais on ne peut pas le modifier.
Oh, c'est hyper pénible. Hein. Franchement,
hyper pénible.
Je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas fait depuis ces années.
Bien sûr,
fou.
Mais est-ce que, par exemple, en changeant un mot, l'auteur d'un tweet ne peut pas aussi changer le sens de son tweet?
Exactement.
Bien sûr. Et en fait, au-delà de l'editing, de fait de se dire oh, zut, j'ai mis ENT alors qu'il fallait E à la fin, ça nous arrive tous et c'est vraiment saoulant. Voilà, quand on tweet, c'est embêtant. Est-ce que cette fonction d'editing ne peut pas aussi changer profondément en fait, la philosophie de Twitter?
Mais à partir du moment où tu indiques aux utilisateurs que le tweet a été édité, ce qui est un truc assez facile à mettre en place, finalement ça va quoi. On comprend qu'il y a
ce qu'on fait déjà sur LinkedIn depuis
exactement,
longtemps,
tu vois,
depuis
donc,
sur Facebook,
c'est une petite
Instagram.
Alors, ça créera, mais tu as raison, je suis d'accord, hein, ça créera sûrement des quiproquos, des incompréhensions, peut-être qu'il y a des petits malins qui en joueront pour essayer de tromper leur audience, de faire un sondage, et puis tu as raison, changer un mot qui peut changer complètement le sens du sondage et de manière assez subtile finalement. Bon, je pense que dans l'absolu, en général, si on doit faire une liste des pour et des contre, en termes de praticité, c'est quand même assez génial. Enfin, je vois pas comment on peut ne pas bouton edit.
C'est vrai que
pratique.
Je pense qu'on est tous pour, mais effectivement, ça pose quand même des soucis. C'est-à-dire que il faudra de toute façon qu'il y ait un versionning, donc du coup qu'on puisse voir quel était le tweet originel pour voir s'il n'y a pas eu effectivement quand on voit
un
Twitter
historique en quelque
historique.
Sorte. Du tweet.
C'est exactement ce qu'avait fait Facebook. Il y a déjà quelques années, ils ont autorisé la modification, il y a déjà longtemps, des posts Facebook, mais on peut voir toujours quel était le message original, parce que si effectivement vous likez un message et que derrière le message est complètement transformé, ça peut être problématique. Mais effectivement quand même, c'est aussi pour ça que ça prend du temps, c'est que pour une plateforme comme Twitter qui n'a pas la même puissance d'ingénierie que Facebook ou Google, c'est quand même une autre entreprise de ce point de vue, c'est compliqué parce que effectivement c'est aussi s'exposer à par exemple des gens, alors on sait que sur Twitter il y a beaucoup de gens qui font des scams sur la crypto par par exemple. Il y a beaucoup de gens qui pourraient profiter de cette fonction pour trafiquer des liens, pour faire du phishing, pour faire des choses comme ça. Donc effectivement, il faut faire très attention à ça, mais effectivement, d'autres l'ont fait avant eux, et il est tout à fait possible pour une plateforme de cette taille, qui est un des plus grands sites du monde quand même, de pouvoir imaginer une telle fonction.
Sur Facebook, tu avais je ne sais pas si ça fonctionne toujours comme ça, parce que je vais moins sur Facebook, mais tu avais la possibilité d'éditer les noms.
Oui, je ne suis pas le seul,
malheureusement pour eux, mais le fait d'éditer les noms de groupes, et tu te retrouvais, tu t'étais inscrit dans le groupe des amateurs de saucissons secs, et le groupe avait été repris, ou le mec avait changé le nom du groupe le groupe des vegans, tu vois, je ne sais pas, et tu te retrouvais malgré toi dans le groupe des.
Mais c'est vrai. Au lait d'amande.
Mais il y avait des trucs super limites, parce que ça, c'est un exemple un peu marrant, tu vois, mais il y avait des trucs, tu te retrouvais dans des groupes complètement improbables auxquels tu n'adhérais absolument pas, tu vois, c'était quand même. Donc, effectivement, ça fait partie des dérives potentielles. Attention.
Oui, complètement. Surtout qu'à l'époque, vous pouvez racheter des groupes Facebook.
Hein,
c'était un gros business. Donc, il y a des gens qui transformaient complètement leur objet.
Je vous remets encore un petit peu d'Elon Musk.
Oh bah allez.
Bah attendez.
Il y en a plus. Je vous laisse.
C'est ma tournée. C'est ma tournée. Ça me fait plaisir.
Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Alors bon.
Non, Starlink. Intéressant aussi. Ce fameux réseau internet planétaire que Elon Musk est en train de mettre en place avec des dizaines à terme, des dizaines de milliers de satellites. Petite épine dans le pied quand même pour Starlink avec. C'est tombé quand ?
Hier, donc
en plein milieu de la semaine, la France qui en fait retire les fréquences de Starlink sur le territoire français.
Petite épine dans le pied, surtout de la France en fait, parce que je pense que Elon Musk, c'est pas non plus, ça va pas l'empêcher de dormir, mais on a encore l'irréductible village de Gaulois qui dit non, ça ne passera pas par nous.
Les casse-bonbons sont là, les gars.
C'est un peu ça. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce qui s'est produit. Alors, en fait, c'est le Conseil d'État, qui a casser l'autorisation de fréquence qui avait été donnée à Starlink d'émettre en France.
Qui avait été donnée par qui ? Par l'ARCEP ?
Par l'ARCEP. Donc il a cassé la décision de l'ARCEP à la demande d'associations de défense de l'environnement. Alors l'argument est technique, c'est-à-dire qu'en gros l'ARCEP n'a pas respecté la loi des appels d'offres. Enfin voilà, en gros il n'y a pas eu de mise en concurrence et donc techniquement c'était pas bon. Voilà ce qu'a fait l'ARCEP en donnant cette autorisation à Starlink. Mais derrière, parce que c'est les associations de défense de l'environnement, il y a des considérations en fait environnementales, c'est-à-dire le côté les satellites, c'est pas bien parce que ça pollue, ça crée des déchets électroniques. Les satellites, c'est pas bien parce que ça crée de la pollution numérique. On peut plus voir les étoiles. Enfin voilà, il y a toutes ces considérations-là. Bon, je sais pas à quel moment on s'est dit que c'était les associations écologistes qui présidaient.
Qui disaient oui ou non.
Voilà, en tout cas, mais c'est vrai que les gars sont interviewés. Donc il y a un des responsables d'association qui dit oui, c'est bien cette décision parce que ça va montrer aux gens qu'il faut pas confondre vitesse et précipitation. Bon, je sais pas de quelle légitimité ils ont à dire ça.
Ouais,
et je ne sais pas si, encore une fois, dans la balance pour et contre, alors il y a certainement des arguments à opposer à Starlink, mais c'est quand même un système, il faut le rappeler, de satellites qui va apporter potentiellement Internet au débit absolument n'importe où, y compris dans des zones très reculées. En France, ça veut dire dans les zones blanches, mais ça peut être aussi partout dans le monde. Et puis dernier point, c'est que bon bah très bien, du coup il y aura pas Starlink en France, en tout cas pour l'instant, parce qu'il va sûrement avoir des recours. Oui. C'est pas encore complètement joué, évidemment.
J'espère que ça va se régler. Imaginez un petit peu la pagaille que ça doit être pour Starlink,
y compris pour ceux qui se sont abonnés d'ailleurs, parce qu'il y a déjà des abonnés en France qui ont déjà déboursé. Donc je sais pas comment ça va se passer pour eux, mais ce qui est sûr, c'est que c'est-à-dire que Starlink, en gros, nous on va s'en priver, mais Starlink va continuer. C'est-à-dire que ils parlent de pollution, ça va continuer à polluer de toute façon. Mais c'est juste que nous on ne bénéficiera pas des avantages liés à Starlink.
J'imagine pas les satellites dire oh là là, on survole la France, les gars, on va détourner, on va passer par l'Angleterre ou par l'Espagne, ou par la Méditerranée. Il ne faut pas qu'on passe par la France, donc ça ne change rien.
Non, ça ne change absolument rien, si ce n'est que nous ne bénéficierons pas
cette fonctionnalité qui est quand même assez pratique.
Alors effectivement, on peut se demander comment tout ça s'est passé. Effectivement, déjà, il y a quand même eu. Je vais avoir un petit point de vue différent.
Mais c'est très bien. Vas-y, explique-toi.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Starlink ? C'est-à-dire qu'il y a Starlink, il y a 5 ans, personne n'en a entendu parler. Elon Musk s'est dit, je vais balancer 40 000 satellites dans l'espace. Ok. ok, j'ai de l'argent pour balancer 40 000 satellites dans l'espace. Qui c'est qui lui a donné cette autorisation à la base? C'est la FCC, ça s'est passé aux États-Unis, qui lui a dit, ok, tu as le droit de balancer 40 000 satellites dans l'espace, ça va concerner le monde entier, hein, mais c'est une autorisation américaine qui a été faite. Déjà, je trouve que quand même, il y a peut-être une précipitation. Effectivement, les astronomes à l'époque se sont dit, attention, ces satellites qui vont nous empêcher de voir correctement le ciel, et effectivement, on l'a vu, ça peut poser quelques problèmes, même si effectivement Elon Musk essaye de dire qu'il intègre de nouvelles techno pour les cacher, on va dire, mais ça va générer effectivement quand même une pollution gigantesque, puisque ces satellites qui ne sont pas éternels, il va falloir en relancer, il en a déjà perdu un énorme batch il n'y a pas si longtemps, je crois qu'on en avait parlé ici. Alors effectivement, on peut quand même se demander si toutes ces, on va, je crois, en parler d'une autre, toutes ces constellations de satellites, est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Parce que il y a effectivement un besoin de connecter des zones blanches, et ça c'est très bien. Mais effectivement, envoyer 40 000 satellites dans l'espace, ce n'est pas juste pour connecter des gens en plein milieu de la Creuse. Hein. C'est clairement pour faire à terme une alternative aux opérateurs télécoms classiques et pour pouvoir proposer un internet mondial. Qui serait plus dépendant des opérateurs locaux. Ça peut être un projet intéressant, je ne le dis pas. Je pense quand même qu'il faut faire attention à ne pas trop se précipiter sur ce genre de choses et d'envoyer dans l'espace à grands frais, et ça coûte très cher, et effectivement c'est polluant, autant de...
Ça coûte
autant
pas cher de... à toi, ça lui coûte cher à lui.
Ça lui coûte cher à Elon Musk. C'est sûr, mais ça pourrait nous coûter cher ensuite en matière environnementale. Alors ça... Il n'y a pas que les satellites d'Elon Musk, il y a aussi ce OneWeb, enfin il y a d'autres constellations qui vont se développer. Donc, et après, effectivement, la décision de l'Arcep dans ses Starlink en France, ça s'est faite un petit peu, effectivement, ça a pris tout le monde un petit peu de cours, et effectivement, on aurait pu se dire, est-ce que oui ou non, il faut autoriser Starlink. Ensuite, de toute façon, ça ne changera rien, parce que on ne peut pas empêcher, comme vous l'avez très bien dit, on ne peut pas empêcher les satellites de Starlink de survoler la France. Donc, quoi qu'il arrive, les gens qui sont, je pense, tous abonnés à Starlink, et il y en a en France, ça coûte très cher, hein, au passage, les gens qui sont abonnés à Starlink...
100 euros par mois, je crois.
C'est plus le prix de l'équipement qui est à peu près de 500 euros, je crois. Ouais.
Oui, mais bon, évidemment, c'est cher. Évidemment, c'est beaucoup d'argent. Évidemment, c'est beaucoup plus cher. Mais quand t'as pas Internet et que tu te retrouves d'un coup avec cet équipement-là, avec 100, 200 mégabits, moi je vois parfois passer des speed tests avec des pings de 50, 60 millisecondes, tu te dis waouh, quand même.
Ah oui, c'est sûr.
Et puis c'est cher et que ça se vend, c'est que les gens y trouvent l'utilité. Hein,
Attends, il n'y a pas d'erreur. C'est la loi de l'offre et de la demande, hein, comme toujours.
Mais là où je suis d'accord avec Eric, c'est sur le côté est-ce qu'on a besoin d'avoir trois constellations de satellites qui vont faire peu ou prou la même chose?
Oui, mais d'un côté, tu peux te poser la question inverse, est-ce qu'on doit laisser Elon Musk être le seul à capitaliser sur un internet planétaire? C'est la question.
Mais alors à ce moment-là, il faudrait avoir une réflexion, moi je pense, comme celle qu'on a pour, tu vois, les réseaux ferroviaires ou les réseaux électriques, où en gros tu as un opérateur principal et puis les autres peuvent venir concurrencer, se greffer sur ce réseau-là et proposer des offres différenciées. En fait, c'est un système comme ça qu'il faudrait. Sur des infrastructures aussi lourdes qu'un réseau ferroviaire, il n'y a pas de rationalité à créer un deuxième rail à côté pour que la compagnie aérienne puisse rouler un deuxième train.
Tu as tout à fait raison, mais ça se réfléchit avant de mettre en place ce système-là.
Alors, c'est vrai.
C'est-à-dire que tu dis, ok, moi je suis Elon Musk, ok, je vais vous filer la moitié de toutes les capacités de ce que je suis en train de lancer. En échange, vous me laissez tranquille, et ces 50% de capacité que je vous laisse, eh bien voilà, tous les pays pourront s'en servir, etc. Enfin voilà.
Tu pourrais devenir un opérateur virtuel, un MVNO sur le réseau d'Elon Musk.
Mais là, il a fait ça.
À la pirate, complètement.
Mais bon, il a quand même eu l'autorisation de la FCC, et pour une licence, on va dire, alors, globale, forcément.
Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, si on rebondit sur l'actu, paf, Amazon, encore une fois, a fait toute l'actualité cette semaine en indiquant qu'ils allaient lancer aussi leur constellation de satellites. Alors, il y en aura beaucoup moins, hein, je crois. C'est pas quelques dizaines de milliers, c'est quelques centaines de satellites, visiblement. Et avec ce coup plutôt sympa pour l'économie française, hein, puisque Ariane Espace va se retrouver à avoir 18 lanceurs de la nouvelle Ariane 6 qui vont être dédiés en fait au lancement de ces micro-satellites. Donc on voit Elon Musk Jeff Bezos, même combat. Et avec un service qui sera concurrent sans doute.
Ah bah oui, complètement, complètement. Mais c'est intéressant au-delà de ça d'avoir la réflexion sur cette privatisation de la conquête spatiale et de l'espace. Quoi. C'est vrai que c'est un truc qui était complètement inimaginable il y a encore 15 ans. Et maintenant, voilà, les acteurs qui sont dominants, c'est ça, c'est la guéguerre des milliardaires, c'est Jeff Bezos versus Elon Musk. C'est vrai dans la conquête spatiale, dans le tourisme spatial, et c'est vrai aussi dans ces constellations de satellites qui vont acheminer Internet un peu partout sur la planète.
Voilà, donc un nouveau service lancé par Amazon. Hein. On peut dire qu'Amazon aussi a de l'argent, puisque rappelons que Jeff Bezos est le deuxième homme le plus riche du monde. Donc,
oui, il se double régulièrement.
Voilà, ça dépend de la capacité. On peut dire que c'est pas rigolo, quoi. Tu vois, il n'est pas obligé d'aller à la banque pour dire excusez-moi, je veux lancer un truc. Non, il fait ce qu'il veut. Et puis donc, il y a OneWeb aussi. Et donc, troisième service, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et c'est vrai qu'on peut.
Ça fait beaucoup de satellites. Et après, derrière, en plus, ça crée des. Alors, c'est vrai, je te rejoins en termes de.
Pour une concurrence.
Oui, alors c'est toujours pareil. Oui, ça fera baisser les prix,
ça
probablement.
Peut-être baisser les prix.
Mais sur le côté pollution, il y a aussi la pollution dans l'espace. Alors, c'est un sujet dont on parle assez peu, mais les débris spatiaux qui sont... certes, plus il y a de satellites, plus il y a de risques de collision. Plus il y a de collisions, plus il y a de petits débris. Et les débris eux-mêmes peuvent générer des collisions avec d'autres satellites. Et c'est un énorme enjeu aujourd'hui pour toute l'industrie aérospatiale, parce que ça fait exploser le prix d'ailleurs des assurances. Parce qu'un boulon à la vitesse où ça va dans l'espace, si tu veux, ça peut exploser un satellite ou ça peut mettre en danger, par exemple, la station spatiale. International.
Ouais,
alors là, je crois que ça vole pas, ils sont pas à la même hauteur, mais c'est pour
ça,
donner
50
km. Voilà, c'est pour.
Ouais,
donner,
là, on est à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude, et il paraît que quand ça redescend, ça se désintègre. Donc,
alors oui, ça se désintègre dans l'atmosphère.
Voilà, bon,
heureusement. Parce que vu le nombre qu'il y a.
Sinon, on serait embêtés.
Non, mais je dis un truc peut-être tout bête, mais bon, il y a des milliers d'avions qui volent tous les jours, quoi. T'imagines, il y a un Starlink qui tombe sur un avion ou je sais pas quoi.
Non, bien sûr. Ça, normalement.
J'imagine qu'ils ont tout calculé.
Ça a été prévu normalement.
Mais bon, tu te rends enfin, tu vas te retrouver avec des dizaines de milliers d'objets potentiellement dangereux, quoi. Enfin, voilà. Bref. Puisqu'on est dans les télécoms, on va terminer avec quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, si je puis me permettre, puisque là, on quitte le satellite pour s'intéresser à la fibre, puisque Orange a annoncé donc sa nouvelle box, la Livebox 6. C'est quand même un événement dans le monde des télécoms, puisque Orange est le premier opérateur télécom en France, hein, rappelons-le, et qu'ils ont des dizaines de millions d'abonnés. Quand ils lancent une box, forcément, ça fait du bruit, hein, Eric.
Exactement, et alors c'est pas une box qui sera réservée à tout le monde pour l'instant. Hein. C'est la box premium d'Orange. Hein, qui vient d'être dévoilé.
Oui, qui est à 55 euros au bout de la première année, je crois. C'est ça.
C'est 35 euros la première année et 55 euros par mois à partir de la deuxième année.
Au passage, ils augmentent de 5 euros l'offre la plus chère. Hein.
Exactement.
Ils sont malins.
Ça s'appelle Livebox Max. Pour avoir cette box, il faut souscrire à cette offre Livebox Max. C'est pas très facile à dire. C'est une jolie box. Une jolie box. C'est une box qui se veut écolo avec un écran e-ink et des modes d'économie d'énergie. Donc ça, c'est un grand motto des opérateurs en ce moment. On essaye d'être le plus écolo possible. Effectivement, la box est un device qui reste allumé tout le temps. Donc c'est vrai qu'il est important qu'elle consomme moins et qu'elle soit effectivement constituée de matériaux pour la plupart recyclés.
Il y a des speed tests là, ça fait saliver quand même.
Ouais.
Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait 1 giga 4 là.
Ça, c'est des images de Thomas Rémiret qui est allé à la conf pour nous hier.
Ça dépote. Ah oui, on était chez Orange, donc c'est normal qu'il y ait 1 giga 4 quand même chez eux.
Quoi qu'apparemment, ils ont eu quelques petits soucis.
C'est souvent les coordonnées les plus mal chaussées.
Ils ont eu des petits soucis de débit quand même hier. Ils n'arrivent pas à fond la caisse. Mais parce que c'est quand même une box qui, donc, avec cette offre Livebox Max, propose du 2 gigabits jusqu'à 2 gigabits par seconde en download et 800 mégabits par seconde en upload, donc c'est des specs très bonnes. Alors il y a des gens qui font mieux aujourd'hui. Oui. Free fait beaucoup plus. Hein.
SFR aussi, je crois, avec
la nouvelle box, ouais. Mais bon, c'est Orange qui est un peu plus conservateur dans ses offres.
Mais bon, cela dit, 2 gigabits de
c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
Plutôt ceux qui l'oublient ou pas à la maison. Hein.
Oui.
Franchement,
c'est déjà pas mal. Et surtout, c'est une box qui est Wi-Fi 6E. Donc c'est la dernière norme en date de Wi-Fi. C'est une norme Wi-Fi qui est intéressante puisqu'elle apporte une nouvelle bande de fréquence au Wi-Fi et devrait donc booster largement les débits en Wi-Fi de la box, donc de tous les appareils qui sont connectés à cette box. Le seul petit souci du Wi-Fi 6E, c'est qu'évidemment pour que ça fonctionne, il faut que vos appareils soient aussi Wi-Fi 6E, donc il faut que votre téléphone soit Wi-Fi 6E ou votre ordinateur soit Wi-Fi 6E. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché encore pour le moment.
Alors, Alors, ça marche avec tous les Wi-Fi, hein, tous les appareils Wi-Fi, mais pour bénéficier en fait de tous les dernières technologies de cette spécificité, il faut bien sûr que votre appareil soit Wi-Fi 6E.
Ce qui justifie d'ailleurs la prime de 5 euros aussi. Hein, c'est aussi ce qui fait que l'abonnement coûte plus cher. Donc, c'est vrai que si vous n'avez pas le matériel qui va derrière. C'est intéressant d'ailleurs la façon dont Orange le vend. Alors, c'est un pitch commercial, mais je trouve que ça a du sens quand même. Ils disent, là, on s'est rendu compte avec la crise sanitaire que les gens en télétravail avaient besoin. La priorité, c'est avoir une bonne connexion à la maison, quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc, du coup, on va doper le Wi-Fi via Wi-Fi 6E et on va faire payer la petite prime bonus.
Logique,
voilà.
Logique. Hein. Et puis, bon, voilà.
Il y a de l'inflation, c'est normal. Hein.
Et puis, Orange est le premier opérateur. Il peut se permettre d'être plus cher que les autres. Il a toujours été. Donc,
La prime à l'opérateur historique, ouais, absolument.
Maintenant, à voir si tout ça va arriver chez Soch tout de suite. Sans doute pas.
C'est la box premium.
Aux abonnés premium. Ouais.
Mais elle est super belle. C'est vrai qu'elle est canon. Elle a un petit côté. Enceinte intelligente un peu avec le.
Oui, c'est vrai.
Elle ressemble un peu à celle de Google avec le côté, je sais pas comment dire, l'espèce de moquette dessus là.
Et puis j'imagine que le fait qu'il n'y ait pas de plastique sur les côtés, parce que évidemment elle est en 100% plastique recyclable, hein, ça c'est quand même intéressant. Ouais. Et le tissu aussi doit, à mon avis, aider à la propagation des ondes, plus que le plastique, je pense. Mmh. Donc on doit gagner aussi en.
À vérifier ça, en, ouais, c'est possible.
En puissance de Wi-Fi. Et rappelons que le Wi-Fi 6E, c'est beaucoup plus de débit, on peut monter, je crois, plusieurs gigabits par seconde, et puis on améliore aussi, en fait c'est un wifi plus intelligent qui va en fait cibler son faisceau sur les appareils qu'il va détecter. Donc voilà, c'est très très bien, et c'est une box aussi qui va avoir plusieurs années de durée de vie, puisque comme elle est wifi 6E, on peut dire qu'on est tranquille en prenant cette box pendant quelques années.
Et
Pourra même être évolutive, ouais, c'est ce que tu allais dire, Eric, je crois, pour les prochaines normes Wi-Fi, donc pourra monter jusqu'à 10 gigabits potentiellement.
Ouais. J'ajoute qu'elle a été faite à deux tiers en Bretagne, et ça, c'est aussi une bonne nouvelle.
À
Lannion.
À Lannion, oui.
Et avec le Bourlou, Bretagne Power, mesdames, messieurs.
Moi aussi, hein, je suis nantais, hein, ça compte. Hein.
Aïe, ça va ? Pas de.
Non, ça va, tout va bien.
T'as deux heures de plus pour l'émission ou quoi ?
Bouygues aussi sort une box Wi-Fi 6E.
Oui, en fait, Bouygues lance Bbox Ultime, si je ne m'abuse, qui est une offre Wi-Fi 6E, qui est moins chère que celle d'Orange, mais effectivement, donc il n'y a pas qu'Orange qui fait du Wi-Fi 6E.
Voilà, il fallait
y a aussi Bouygues Télécom avec sa box qu'on connaît déjà, hein, mais qui est donc compatible avec les nouvelles normes Wi-Fi.
Très bien, et bien écoutez.
Et c'est moins cher un peu qu'Orange.
Et c'est un peu moins cher, Bouygues est un petit peu moins cher en général. Voilà pour cette première partie de quoi je me mêle. Vous en voulez encore? Ça tombe bien, on a encore plein de trucs à vous raconter avec Anthony et Eric. Si vous êtes à la radio, à la télé, ça suit, même sur 01 TV. En revanche, sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième module qui est juste en dessous. Et vous allez pouvoir retrouver Anthony et Eric pour évoquer. Et bien Samsung qui annonce un programme pour réparer soi-même ses smartphones. On va parler de réseaux sociaux, de Dyson qui lance un casque, écoutez bien, avec purificateur d'air. Au début on s'est dit c'est le 1er avril, et ben non, c'est un vrai produit qui existe. Vous allez voir, on est beau en plus avec, on a des images, donc c'est plutôt cool. A tout de suite, on revient dans un instant.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Nous voilà de retour, deuxième partie de quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end sur BFM Business, Radio Télé, sur 01 TV, la chaîne, sur les box Orange, Free SFR, et puis bien sûr sur le digital, hein, sur 01net.com et sur la chaîne YouTube de 01 TV, avec un club de la presse IT, Mouse Costaud cette semaine, Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com, et Anthony Morel, journaliste à BFM Business. On poursuit, hein, puisque si vous nous regardez ou nous écoutez, il y a eu une première partie de ce module de quoi je me mêle. On a beaucoup évoqué les frasques d'Elon Musk, etc., etc. On a parlé de télécom. Là, on va repartir sur le Pixel War, la Pixel War qui a secoué Internet, on va le dire, hein, et secoué les pixels. On peut dire qu'il commence là-dessus.
On voyait que ça. Là. Enfin, je sais pas, il y a eu deux ou trois jours sur les réseaux sociaux, tu ne voyais que ça. Tu ne pouvais pas passer à côté de cette guerre des pixels qui a été un truc incroyable. Moi, j'ai suivi ça. Alors, je ne sais pas pour vous, moi, j'ai vraiment suivi un peu comme une série Netflix, quoi. C'est presque ça. Parce qu'il y a des rebondissements, il y a plein de trucs qui se passaient. Pour ceux qui vivraient dans une grotte,
on est sur Reddit.
Alors, Reddit, en fait, a lancé une sorte de, comment dire ça, une œuvre d'art participative, donc un Reddit, donc c'était AirPlay. Reddit, c'est toujours Air plus la thématique du moment. Enfin, plein de thématiques différentes. Et là, en gros, chaque internaute pouvait venir déposer un pixel toutes les 5 minutes. Voilà, un pixel toutes les 5 minutes. Tu pouvais revenir 5 minutes après, remettre un pixel. Et donc, chaque...
Et annuler le pixel précédent.
Alors qu'il y a, en fait, il y avait un grand canevas. Donc au début, chacun crée son petit truc, etc. Et à la fin, forcément, il y a des guerres de territoire parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu très vite des factions qui se sont mises en place. Et là, c'est devenu complètement dingue parce que tu as eu des guerres entre pays. Mais c'était presque, enfin, vraiment la guerre, quoi. Enfin, guerre gentille, évidemment.
Oui, c'était de bonnes guerres.
C'était de bonnes guerres. Et surtout, ce qui était incroyable, c'est que la France a joué les premiers rôles dans cette guerre puisqu'on a été, mais alors, extrêmement actifs parce qu'on a eu des gros streamers de Twitch qui se sont mis dans la bataille, notamment Kameto, et puis suivi par d'autres, pour dire voilà, on va faire rayonner la France. Alors ils ont commencé à créer une énorme tour Eiffel qui devait prendre un tiers de la map. Les gens étaient furieux en disant mais qu'est-ce qu'ils nous font les Français. En plus, la tour Eiffel était assez moche au début, il faut bien le dire. Et puis après, on a commencé à créer des dessins. Enfin, il y a eu des batailles, certains sont venus envahir le territoire français. Ensuite, on a conçu des alliances avec d'autres pays en leur disant mais si vous nous attaquez pas, on vous attaquera pas et on fera une alliance contre d'autres. Il y a eu des attaques sous fausse bannière, c'est-à-dire que certains allaient créer un drapeau français sur un pays adverse pour faire croire que les Français les attaquaient pour créer des représailles contre les Français. Enfin, ça allait
très très loin.
C'était un truc de stratégie assez fou. Il y a eu les streamers parlementaires entre eux sur des techniques de négociation, etc. Enfin, c'était assez génial à suivre. Et à la fin, on s'est retrouvé avec un truc qui est assez canon. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Il y en a d'ailleurs. Ah ouais, c'est superbe.
Ouais, c'est une vraie œuvre d'art.
C'est une vraie œuvre d'art avec des drapeaux, alors il y a eu des communautés manga. Donc il y a pas mal de trucs autour de One Piece, il y a beaucoup des communautés diverses et variées sur des jeux vidéo, il y a du Magic, il y a plein de choses, et on se retrouve, et la France a quand même une place importante, y compris à la fin, puisqu'on se retrouve avec un beau drapeau français avec la tête de Zidane au milieu, un arc de triomphe, un croissant, et deux ou trois autres trucs liés à la France.
Jinx,
c'est vraiment pas mal, enfin, j'ai trouvé ça assez excellent à suivre.
C'est effectivement génial.
Et puis c'est la vraie philosophie d'Internet finalement,
qu'on
est en train de peut-être un peu de perdre.
Ah,
voilà, c'est bien ce qui va que ça ne rappelle.
On est sur un vieux truc en fait.
Oui.
Et en fait, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est finalement ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça me fait penser à la Million Dollar Webpage, qui était une vieille page web
c'est vrai.
Qu'un étudiant avait conçue. Et bon, là, c'était plutôt du marketing, mais c'était super malin, où chaque marque pouvait payer chaque pixel et donc venir sur cette page. Et à la fin, on a eu un espèce de patchwork de plein de marques. C'est complètement inspiré de la Million Dollar Webpage, sauf que là, c'était complètement participatif et ça rappelle l'Internet d'avant et les communautés, les forums, les communautés. Et c'est pas la première fois que Twitch fait ça, ils l'ont fait, que Reddit fait ça, ils l'ont fait en 2017. Aussi, c'était un poisson d'avril en fait. Et ils l'ont refait cette année et on a vu une grosse différence, c'est-à-dire qu'on a vu l'impact effectivement de Twitch sur les communautés internet. Et on a vu des scores hallucinants sur Twitch. Hein, tu parlais de Kameto, il a été à plus de 400 000 auditeurs, enfin
followers
en simultané.
Ça fait rêver beaucoup de chaînes de télévision. Hein, ouais. Je vous le dis. Hein,
c'est quand même assez énorme. Et surtout qu'il n'était pas tout seul. Lui, il organisait un petit peu.
Avec un engagement qui est beaucoup plus fort en plus que les téléspectateurs
évidemment,
devant leur télé, t'imagines.
Évidemment. Qui commentent en direct, qui te posent des questions, qui interagissent, évidemment.
Exactement. Et en fait, du coup, c'est grâce à lui qui a non seulement organisé sa communauté, fédéré autour de lui toute une communauté aussi de streamers francophones. Il y avait Squeezie, il y avait les plus grands Locklear, il y avait tous les streamers les streamers les plus connus de France étaient tous de la partie. Et ce qu'ils ont fait, qui était brillant en fait, c'est qu'ils ont utilisé un script pour pouvoir en fait que tout le monde soit sur les mêmes dessins, ce que peu ont fait.
C'était organisé quand même.
C'était très organisé, très bien fait, puisqu'à chaque fois ils disaient ça y est, on va s'attaquer à ce projet-là. Donc maintenant tout le monde s'occupe par exemple de la tête de Zidane. Tout le monde va maintenant s'occuper du Louvre. Donc ils sont vraiment très bien organisés, à tel point qu'ils sont passés pour des tricheurs. À tel point qu'ils sont passés pour des tricheurs. Ils étaient tellement bien organisés qu'on a cru, enfin que certains ont cru durant cette guerre, et notamment les Espagnols, ils ont cru que les Français trichaient en utilisant des bots qui automatiquement allaient faire les points sans qu'il y ait intervention humaine. Alors que c'est faux, c'était bien des gens qui étaient des vrais gens qui étaient très très bien organisés. Et c'est marrant parce que On voit là que d'habitude, bon ben, on dit souvent la France, on n'est pas fier de nous, on est un petit peu machin, on n'est pas très patriote. Et ben dis donc là, ouais. En fait, on était les plus à représenter le drapeau, parce qu'il n'y a pas que là, on le voit en bas à gauche, mais il y en a partout ailleurs. On a été sans doute les gens qui ont été les plus fiers de leur culture.
On va comparativement dire. Avec les États-Unis en termes de population. Alors, tu vois, oui, on est quand même.
Mais ce qui est vrai aussi, et je me suis fait cette réflexion, ce qui est vrai aussi, c'est que à la base, c'est quelque chose qui vient de Reddit, et que Reddit est subdivisé en des milliers de petites communautés. Et donc, c'est d'abord ces gens-là qui ont créé le tableau. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, moi je suis fan d'un groupe de rock qui s'appelle King Gizzard. Vous aviez le petit encart King Gizzard, et c'était, et ils l'ont fait. Et en fait, c'est aussi comme ça que s'est développé Place, par des petits pixel art de chaque communauté de Reddit.
Mais ce qui est marrant, c'est que la France n'est pas ultra présente sur Reddit, en fait. Donc, ouais, c'est aussi ce qui a poussé notamment les Espagnols à nous accuser de triche, parce que les gens hispanophones est beaucoup plus représentés sur Reddit.
Exactement.
Donc on est vraiment les ennemis de l'Espagne. Là, si vous êtes streamer technophile et que vous allez en vacances en Espagne, vous attendez pas à être super bien accueilli. Voilà, si vous êtes dans un bar à tapas, attention à ce que vous mangez. Voilà, c'est ce que je vous dis.
Bah écoutez, on aura au moins gagné la Coupe du Monde du pixel. On verra l'autre, c'est dans quelques mois.
Bon, d'ailleurs, c'est fini maintenant, tout est redevenu blanc.
Alors, tu as des petits malins qui essayent de faire du business avec, t'as vu, parce qu'il y a des cadres qui sont vendus, il y a des mecs qui ont essayé de le vendre en NFT, forcément. Alors que tu as un gros truc, no NFT, dans la fresque, justement, pour dire, voilà, pas de récupération.
Mais je trouve que c'est aussi un instantané de notre histoire, hyper intéressant, ce type d'œuvre. C'est formidable.
Ouais, ça restera. Quand tu voudras avoir une vision du monde de 2022 sur Internet, bah écoute, t'as cette fresque qui dit quand même des choses. Voilà.
Oui. Il y a un truc intéressant aussi, parce que évidemment les politiques se sont mêlés à cette histoire-là. On parlait de Zidane, c'est intéressant, parce que Zemmour a fait un tweet en disant bravo à tous les internautes français qui conservent le drapeau bleu, blanc, rouge sur la fresque. Effectivement, c'est pour ça que tout le monde s'est dit, écoutez, comme Zemmour, on n'a pas envie de suivre ce qu'il dit, on va décider Zidane, parce que rappelons que quelques jours auparavant, il y avait eu cette histoire de Zemmour qui était allé sur un stade de foot à Marseille et qu'il avait été sorti par le frère de Zinedine Zidane.
J'avais pas suivi ce mini épisode. C'est marrant parce que dans cette histoire, il y a plein de mini-histoires. C'est ça qui est fascinant. Il y aurait presque un bouquin à écrire.
C'est pour ça
qu'il s'est passé en quelques jours.
C'est pour ça que je disais que c'est aussi une belle photographie de. C'est un instantané de notre époque, finalement. Et c'est ça qui est assez intéressant. Voilà, donc pour ça, on pourra en parler pendant des heures, parce qu'effectivement, il y a plein d'autres choses à raconter. Si on enchaînait avec Samsung, on en a parlé juste avant, dans la première partie. Samsung, qui est donc, on va dire, voilà, le géant de l'électronique, qui pousse quand même essayer à ce qu'on consomme moins. Et finalement, c'est ce qu'ils essaient de faire là, avec ce programme pour réparer soi-même ses smartphones. C'est assez intéressant qu'ils vont en parler.
Écoute, allez, c'est parti. Ouais, bien sûr. C'est intéressant parce que je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé il y a quelques mois quand Apple avait fait exactement la même chose. Et on avait dit, ça va lancer une onde de choc, les autres ne vont pas pouvoir y passer à côté. Effectivement, Samsung le fait et on peut se douter que les autres fabricants de smartphones vont faire exactement la même chose. En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est virage à 180 degrés. Jusqu'ici, on vous disait, si vous avez un problème avec votre téléphone, surtout, surtout, ne touchez à rien. Amenez-le vers un réparateur agréé. Si vous essayez de le bidouiller, c'est à vos risques et périls et au risque de la garantie. Et là, maintenant, on a les fabricants, et dont Samsung, qui nous disent, en fait, on va mettre à votre disposition des pièces détachées que vous pourrez acheter sur notre site internet, des petits outils, des mini tournevis, des mini machins, des tutos aussi. Sous forme de vidéo, ils se sont alliés avec iFixit, alors que iFixit, si vous tapez réparer smartphone sur internet, vous tombez forcément sur les vidéos d'iFixit, elles sont super bien faites d'ailleurs, donc ils se sont alliés avec les meilleurs, et donc vous allez pouvoir réparer vous-même, on va dire, les pannes ou les problèmes les plus courants, un écran qui se fissure, une prise USB qui fonctionne plus, une vitre arrière explosée, ce genre de choses. Alors il faut quand même être un petit peu bricoleur et sortir ses petits doigts musclés, je te dis, moi je suis pas ultra bricoleur, je suis pas certain que je m'y risquerais, mais en tout cas ils donnent cette possibilité là. Ce qui est assez intéressant, parce que on pourrait se dire, mais Alors, quelle mouche les a piqués? Est-ce qu'ils ont, ils ont vu je sais pas, une lumière tomber du ciel? Ils se sont dit, on va sauver la planète, on va... Bon, ça, c'est le discours
et
officiel.
Et puis, accessoirement, ils se tirent un petit peu une balle dans le pied. Alors, parce que si je répare mon téléphone, bah, je serais moins tenté de le changer et d'en reprendre un neuf.
Évidemment. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça? En fait, il y a deux choses. Il y a deux pressions qui sont subies aujourd'hui par les fabricants de smartphones. La première, c'est une pression réglementaire. C'est-à-dire que de plus en plus de pays, et notamment les États-Unis, Biden a dit, on va mettre en place le droit à la réparation, donc le fait que les gens puissent réparer eux-mêmes, et on va taper sur les géants de la tech s'ils ne veulent pas accepter de faire ça. Donc ils se disent, bon bah, puisqu'on va se faire taper dessus, autant prendre les devants, première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi une pression de la part des consommateurs eux-mêmes. Les consommateurs qui aujourd'hui, bon bah, il y a quand même une grosse problématique de pouvoir d'achat, d'inflation. On a, en gros, changer son smartphone, c'est plus forcément la priorité absolue. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres. Hein. En France, par exemple, il y a encore 3 ou 4 ans, on changeait de smartphone tous les 20 mois en moyenne. Aujourd'hui, c'est tous les 24 mois. Bon, ça reste pas mal, hein. C'était un smartphone tous les 2 ans, mais enfin, ça ralentit un petit peu. Et donc, les fabricants se disent, bon bah autant aller avec le sens du vent, et puisque les gens changent moins souvent de smartphone, pour des raisons d'ailleurs dont on pourrait discuter, hein, notamment des raisons d'innovation à mon avis, eh bien on va aller leur proposer de réparer eux-mêmes leur téléphone. Donc voilà un peu la réflexion à mon avis qu'a menée Samsung avant de faire cette proposition, sachant que ça va être aux États-Unis dans un premier temps. À partir de cet été, on peut imaginer que ça arrive en France
Très vite.
Assez rapidement hein, évidemment.
Éric ?
Oui,
c'est intéressant. Hein.
Oui, c'est à mon avis une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle que des géants comme Samsung, Apple en a parlé aussi, s'y mettent, parce que c'est sûr que, comme tu le dis, ce n'est pas à la portée de tout le monde et il faut faire très attention. Il faut avoir une minutie énorme quand on ouvre un smartphone, et au moindre faux mouvement, on peut évidemment le casser encore plus qu'il ne l'est. Donc c'est une très bonne chose que Samsung s'associe à iFixit, mais je ne sais pas en fait si ça aura un impact énorme justement. Parce que les gens qui sont capables de faire ça et qui s'intéressent, il faut vraiment être effectivement bidouilleur pour le faire. À titre perso, par exemple, je n'essaierai pas forcément de réparer mon smartphone moi-même. Pour certaines opérations, c'est faisable. Pour d'autres, c'est quand même très compliqué. Mais je trouve que, en tout cas, le fait qu'on puisse ouvrir son matériel, pouvoir démonter, changer une partie s'il faut, ça va, c'est bien. On a trop souffert de l'inverse depuis des années. Comme j'ai commencé l'informatique, on montait son PC soi-même, on changeait
son processeur, sa carte graphique.
Évidemment qu'il y a eu de la miniaturisation, que c'est plus compliqué.
C'est ça, mais, les tapis de la tech.
Mais t'as raison. Mais il y a eu des gens, et là on peut pas.
Vous vous souvenez de la 3DFX qu'on changeait, qu'on installait sur son PC?
On fait toujours ça avec les cartes graphiques, ceci dit. Mais par contre, on a quand même souffert dans la technologie de gens comme Apple qui, pour le design,
bien sûr.
Nous ont privés de toutes ces réparations, de tout verrouiller. Alors c'est toujours le cas sur certaines de leurs machines, sur même beaucoup de leurs machines. Et c'est devenu la chose à faire en fait. C'est-à-dire, on prive les gens de l'accès à leur matériel. Le fait qu'on arrive à une nouvelle période comme celle-ci, c'est à mon sens une très bonne nouvelle. Et effectivement, si c'est parce que ils ont peur de se faire taper sur les doigts, c'est tant mieux. Donc tant mieux. Je ne suis pas sûr, par contre, que beaucoup de gens le fassent. C'est tant mieux qu'on puisse le faire. Ce n'est effectivement, si votre téléphone ne marche pas du tout, peut-être parfois vaut mieux le confier quand même à un professionnel plutôt que d'essayer de le réparer.
Je pense que ça peut faire du bien aussi à toutes ces boutiques, vous savez, de réparation de smartphones qui vont se retrouver avec des choses un petit peu plus structurées, parce que parfois c'était un peu fait à la va-vite et n'importe comment. Là, Si Samsung fait tout pour que ce soit plus facile, eh bien les professionnels, on va dire, de quartier, etc., pourront aussi en bénéficier. Donc c'est plutôt pas mal.
En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas le détail de quel impact ça aura sur la garantie. C'est-à-dire que si tu bidouilles le téléphone en suivant leur tuto avec leurs outils, les pièces d'énergie que tu as achetées, mais que tu arrives à le péter quand même, comme tu disais, ce qui arrivera probablement assez régulièrement, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que tu peux te faire rembourser? Est-ce qu'ils te remplacent le téléphone? Attendez, j'ai suivi toutes vos instructions, mais
ça n'a pas fonctionné. Je ne suis pas sûr que du coup la garantie. C'est une excellente question.
Ouais, mais d'un côté, ça serait dégueulasse de faire sauter la garantie parce qu'il t'incite à réparer toi-même ton smartphone.
C'est toute la contradiction.
Et c'est là où vous avez raison, c'est que la plupart du temps maintenant, ces smartphones sont étanches, et ouvrir un téléphone
général, tu perds l'étanchéité.
Tu perds l'étanchéité.
En général, oui.
Et donc, je me dis, ça doit être quand même un sacré casse-tête pour eux. On va suivre ça, on y reviendra, bien sûr. Dans l'actu, la guerre des réseaux sociaux, avec cette histoire incroyable. On le sait, c'est vraiment la guerre ouverte entre Instagram, Meta, et TikTok. Tout simplement parce que TikTok est en train de laminer Instagram. Ouais, alors bon, ouais. Bah, laminer, c'est peut-être un mot très fort, mais disons que voilà, l'audience de TikTok, elle est incroyable, et forcément, Instagram en souffre. Ça a des conséquences, on va dire, de guéguerre et de, on va dire, de tension, ah oui. De concurrence, qui amène à des choses que tu vas nous raconter.
Assez dingue.
Anthony, folle.
Alors, c'est une histoire qui a été révélée par la presse américaine, c'est le Washington Post, si je ne dis pas de bêtises, qui révèle que Facebook a tenté de torpiller TikTok en faisant appel à une agence de communication spécialisée qui a été engagée spécifiquement pour balancer des saletés en fait sur TikTok, notamment auprès des journalistes aux États-Unis, des hommes politiques également, pour essayer d'obtenir en fait de la mauvaise presse, quoi, des mauvais articles, des articles qui disent des trucs un peu négatifs sur TikTok. C'est une agence de communication qui s'appelle Targeted Victory, et en gros, on lui a demandé, son mandat c'était ça, hein, de rendre TikTok le plus dangereux possible. Donc en gros, ils ont appelé des journalistes, ils leur ont balancé des histoires, alors c'est assez croustillant en plus, c'est-à-dire en insistant sur les risques que TikTok fait porter sur les jeunes générations, alors risque d'espionnage chinois, bon ça c'est la première chose, le fait que TikTok collecte énormément d'informations, de données sur les jeunes utilisateurs, ce qui venant de Facebook, c'est quand même assez savoureux, le camembert qui dit Roquefort tu pues, quoi. Enfin, c'est un peu
avec un peu d'hystérie dessus, quoi.
Voilà, en plus, au cas où. Non, mais c'est quand même assez marrant. Et puis, alors même chose, ça c'est dingue, ils ont fait partir la rumeur que sur TikTok, il y avait des défis complètement débiles et dangereux, du genre allez gifler votre professeur et filmez-vous en train de le faire. Alors c'est vrai, c'est dangereux, ne le faites pas, hein, très clairement.
Ouais, surtout
pour votre avenir, ça peut être vraiment un problématique. Sauf que ce défi, il existe vraiment, mais il a vu le jour sur Facebook en fait, pas du tout sur TikTok.
En plus.
Donc c'est ce qui est complètement ironique. Ouais. Enfin, c'est assez dingue. Donc ça vient, disons, encore s'ajouter à toutes les casseroles dont on a parlé ces derniers mois, les Facebook
ça,
Papers,
ça aussi.
Les machins. Et tout.
Ça prouve aussi un peu la panique, oui, le vent de panique chez Meta.
Ah ben carrément.
Quand même. Non,
carrément.
Oui, alors après, c'est dingue. Hein. Cette histoire est complètement folle. Mais en fait, ça ne m'étonne même plus d'eux. C'est-à-dire que, rappelez-vous, quand Snapchat a émergé, alors c'était un petit peu avant TikTok, mais quand Snapchat a émergé, Facebook a essayé de racheter Snapchat. Snapchat a refusé de se faire acheter par Facebook. Et Facebook a été clair, il dit, OK, vous refusez, on va vous déclarer une guerre totale. Et en fait, ils ont passé leur temps à copier les fonctions de Snapchat dans le but de laminer Snapchat. Là, c'est la même chose qui se passe avec TikTok, sauf que bon, TikTok est en train de prendre le large et que finalement, Facebook court derrière avec des fonctions qui s'en approchent, avec les Reels, etc., dont on a déjà parlé ici. Et en fait, ça, c'est effectivement, il en va de leur survie. C'est-à-dire que si Instagram devient ringard, ce qui pourrait très bien arriver, hein, franchement, si ça continue comme ça. Voilà. Alors oui, c'est déjà arrivé à Facebook. Pour l'instant, Instagram n'a pas ce statut d'application ringarde. Mais elle n'est pas aussi tendance que maintenant, les ados, les jeunes vont sur TikTok plutôt sans doute que sur Instagram. Et il en va de la survie de Facebook. Donc, ils prennent des mesures. Ils prennent des mesures qui nous paraissent complètement dingues, mais qui finalement, je pense, effectivement, doivent témoigner d'une certaine panique en interne.
C'est clair. Ça doit être complètement illégal, pareil. Enfin, j'imagine. Je ne sais pas s'ils vont se faire taper sur les doigts d'un point de vue légal pour ça, mais enfin, c'est quand même. C'est assez sérieux, quoi, de balancer des fausses informations. Exprès pour essayer de détruire la concurrence.
Diffuser de la fausse information, sachant qu'en plus, on passe son temps à dire qu'il faut essayer de lutter contre. C'est quand même effectivement fort de café.
Parce qu'apparemment, les échanges de mails sont très clairs, quoi. Enfin, il n'y a pas tellement de doutes. Et d'ailleurs, Facebook n'a même pas démenti l'information. Ce qui, en général, confirmation. Sans vouloir reparler à leur place. Mais...
J'aimerais bien ouvrir les dossiers secrets de Facebook, de Meta, qui sont de moins en moins secrets, d'ailleurs, parce qu'on se souvient de toutes ces études concernant Instagram, les jeunes filles, etc. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Tous les lanceurs d'alerte, en fait, qui viennent des rangs de Facebook, etc., et qui ont sorti plein d'informations confidentielles.
Voilà. On enchaîne, tiens, avec pourquoi pas Windows, tiens, Windows 11 qui petit à petit trace sa route, hein, voilà, mise à jour de Windows, qui a un peu de mal à arriver chez les pros, hein, visiblement, mais comme
et
toujours. Hein. Et donc Microsoft se dit, pour séduire les pros, Et on ouais. fait une mise à jour qu'il faut.
Parce que les pros, c'est quand même une bonne partie du marché.
C'est
et il y a beaucoup
d'argent,
de gens qui sont encore sur, qui traînent sur Windows 7, qui traînent sur Windows 8, donc il est temps de s'y mettre. Donc Microsoft a fait un événement cette semaine qui était consacré au futur du travail hybride. Alors c'est les conférences Microsoft, parfois c'est un petit peu ennuyeux d'un point de vue de la... d'un point de vue du naming, mais c'était assez intéressant parce qu'ils ont
4 heures de conf, ça va, c'est sympa en visio sur Teams, c'est cool.
Quel enfer. Assez intéressant puisqu'ils ont annoncé pas mal de nouveautés déjà pour Windows 11, parce que bon, si vous utilisez Windows 11, peut-être vous êtes peut-être frustré de voir qu'il y a des trucs qui avaient disparu par rapport à Windows 10. Eh bien, ça va revenir, notamment par exemple les dossiers dans les onglets. Alors on peut se dire les dossiers dans le menu démarrer, c'est-à-dire que sur votre smartphone, on est tous habitués à réunir nos applications dans des dossiers. Là, ce n'était pas possible sous Windows 11. Et ils vont le lancer. C'est absolument génial. Ils vont aussi refaire l'explorateur de fichiers. Ils vont le moderniser un petit peu. Ils vont augmenter. Ils vont faire un truc très bien qui est similaire à un truc qu'on trouve sur Android, qui est les sous-titres instantanés. C'est-à-dire, dès que vous allez regarder une vidéo, quelle qu'elle soit, vous pourrez voir des sous-titres générés par une IA, évidemment, au-dessus de l'écran de Windows. Donc, c'est très bien pour les malentendants, évidemment.
Oui, bien
mais
sûr.
C'est aussi pratique pour les
traductions,
dans d'autres contextes,
tout ça,
pour les traductions, etc., ouais. etc. Donc, ils annoncent plein de choses pour Windows 11 et c'est plutôt intéressant. Donc,
notamment en visio aussi, d'après ce que j'ai
alors,
compris.
Alors, effectivement, hein, ouais. je ne l'ai pas dit, mais effectivement, tu as plein de nouvelles fonctions de visio et notamment une fonction qui est similaire à celle d'Apple Center Stage. Donc, quand vous bougez devant votre caméra, la caméra
va vous suivre. En
fait. Et il y aura aussi une fonction de eye tracking. Donc, ça, c'est assez marrant. Même si vous détournez le regard quand vous êtes en visio, une IA va faire en sorte que votre regard soit bien en face de votre interlocuteur. Ça pourrait être un peu bizarre si ça marche pas.
C'est pas mal.
Ça, j'espère qu'on va pas. Oui, c'est vachement
bien. Il
faut pas
qu'il y ait un effet.
Faut pas que ce soit un petit peu bizarre.
Canivale. Mais c'est un robot en fait, François. Mais qu'est-ce qui t'arrive
J'ai pas encore vu ça marcher. J'ai hâte de voir.
Je comprends pas.
Donc il y a plein de fonctions comme ça qui vont.
T'as l'annulation de bruit aussi, qui est pas mal.
Il y a l'annulation de bruit.
Si t'as un enfant qui pleure derrière toi pendant que tu lances une visio, ça va s'annuler automatiquement. T'entends plus l'enfant. Ça va. Il y a des priorités. J'ai une réunion là.
Enfants, vous le mettez à la corbeille.
Ça fonctionne aussi pour les bruits de perceuse, les bruits de travaux, enfin tout ce que tu
tout va
que
bien
tu
veux, donc voilà.
tout va bien.
Formidable Microsoft.
Non mais c'est malin.
Il y a c'est plein de petites fonctions comme ça pour Windows 11, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont lancé c'est qu'ils vont développer Windows 365. Alors Windows 365 c'est Windows 11 ouais. mais par abonnement. Et dans le cloud. Donc c'est en fait un PC un peu comme Shadow, auquel on accède
à distance, dans le cloud.
Dans le cloud, donc ouais. on a son Windows. Mm-hmm. Et ils améliorent largement Windows 365 parce qu'il va être intégré à Windows 11 et on va pouvoir même l'utiliser offline. Donc on va pouvoir l'utiliser quand on est dans un train. Mm-hmm. On va pouvoir utiliser son PC dans le cloud.
Donc offline. Dès qu'on se connecte, en fait, il rapatrie tous les fichiers.
Il va faire une synchro dès qu'on se connecte.
Ah d'accord, c'est pas mal. Comme Chromebook en fait.
Un peu comme les Chromebooks. Comme Alors ça, et effectivement, tu parlais des pros tout à l'heure, ça effectivement c'est une fonction Windows 65 qu'adore les gens qui gèrent des nombreuses machines Windows, puisqu'on peut avoir comme ça des machines beaucoup plus sécurisées.
Allez, pour terminer le produit, j'allais dire what the fuck, je sais pas si on peut dire ça
je crois.
On peut le dire ou pas?
Oui.
Le produit un peu bizarre, chelou de ce début avril.
Auquel on ne promet pas forcément un grand avenir d'emblée.
Voilà. Et pourtant, c'est une marque, moi j'admire beaucoup,
bien
c'est
sûr,
Dyson, qui est un peu l'Apple de l'aspirateur, hein, on peut le dire. Franchement.
Et des purificateurs d'air.
Et
l'Apple de l'aspirateur, ouais.
C'est pas mal.
C'est un peu ça, Dyson.
Non mais attendez. C'est vrai, en plus, c'est bien.
Ils ont annoncé le 31 mars, moi je me souviens, j'étais en vacances et je vois ça, je dis mais qu'est-ce que c'est les gars, attendez, ne lancez pas ce type de produit juste la veille du 1er avril.
Mais ouais,
ils ont lancé un truc. Alors
incroyable.
Si vous êtes en vidéo, vous le voyez derrière nous et derrière Anthony. De quoi s'agit-il, Anthony?
Alors écoute, on peut le décrire comme un casque audio purificateur d'air, d'accord? Donc casque audio purificateur d'air. Donc casque audio.
Qui purifie l'air qu'on a dans les oreilles ou...
Non, qui purifie. Alors en fait, l'air est aspiré au niveau des oreilles, d'accord? Passe dans un système de filtre et arrive à un dispositif, alors qu'on peut décrire comme une visière, mais je dirais presque une muselière, hein, parce que c'est presque ça, qui couvre le nez et la bouche.
On dirait un peu Hannibal Lecter quand on met le truc comme ça.
C'est entre Hannibal Lecter et Bane, en gros, le grand méchant dans Batman. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que alors, pour le coup, tu respires un air qui est plus pur, donc ça doit. C'est même pas anti-Covid, apparemment, mais en tout cas, ça va supprimer
toutes les
petites
bactéries,
particules
les trucs,
fines, les machins, les allergènes. Donc voilà, tu respires mieux quand tu es dans une ville très polluée. Par contre, t'as l'air d'un psychopathe, donc voilà, c'est un calcul à faire. Choisis ton combat.
Ouais.
Mais alors, je sais pas, moi je suis comme toi, c'est-à-dire que je les admire énormément, notamment en termes de design Dyson, donc je me dis, soit ils sont complètement visionnaires, dans 5 ans, on est tous à se balader avec des trucs comme ça.
Et on sera là tout penaud en disant, pétard, ils avaient raison.
Alors, très bien, on ressortira l'enregistrement, il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même des doutes, soit ils sont complètement à côté de la plaque et ils se disent, et c'est assez intéressant d'ailleurs, comme d'autres fabricants d'électronique, parce qu'il y a d'autres projets un peu dans le même genre, j'en ai vu chez LG, chez Xiaomi. Bon,
tu
les gars,
te rappelles du masque anti-Covid que tu nous avais présenté il y a quelques
temps. Mais bien sûr, mais c'est à ça que je pensais. Ou à Razer aussi, avec les petites loupiottes, genre clavier rétroéclairé, mais sur un masque anti-Covid. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que les gars se disent, bon, vous avez porté des masques anti-Covid pendant 2 ans, là je crois que vous êtes prêts. Là. On peut vous mettre n'importe quoi sur la tête.
Vous avez tout avalé, on va encore plus loin.
Donc il n'y a pas de problème, donc ils sont avec ces systèmes de masques auxquels on va ajouter des fonctionnalités. Donc là c'est pour la respiration, il y en a d'autres avec des capteurs d'analyse de la qualité de l'air, d'autres qui imaginent des systèmes de traduction instantanée de ce que tu dis à travers le masque, des systèmes de climatisation, de chauffage ou de refroidissement du visage, enfin des trucs complètement fous où tu te dis, ok, bon, délire d'ingénieur, brevet, pourquoi pas, concept, mais alors produit commercial, parce que là, apparemment, c'est un vrai projet. En plus, ils disent, on n'a pas attendu le Covid, on travaillait dessus depuis 6 ans, et on va le sortir commercialement dans les mois qui viennent. Bon, très bien, on le testera.
On n'a pas le prix encore.
On n'a pas le prix,
je ne l'ai pas trouvé.
Parce que je vois que Dyson, ce n'est pas donné.
Non,
de manière générale.
Non, en général.
Oui, c'est quand même effectivement complètement what the fuck. moi, j'imagine, si on avait la totale, par
exemple...
J'ai envie
de dire, c'est un produit qui manque pas d'air, mais est-ce
que
c'est un produit qui manque pas d'air.
C'est pour moi.
Moi, j'imagine, si vous voulez ajouter un petit casque de VR là-dessus, comme ça, vous êtes bien. Vous êtes parfait. Non, mais j'ai lu, il faudrait... Ça demanderait confirmation, mais j'ai lu un long thread sur Twitter d'une youtubeuse tech chinoise qui expliquait en plus que par rapport au Covid, au contraire, ce casque pouvait être dangereux, puisque en fait, si vous avez le Covid, il aurait plutôt tendance, alors oui, vous allez respirer peut-être un air plus pur, mais en plus, répandre plus aisément le virus.
Ah bon ?
C'est ce qu'elle avait l'air de dire. Donc effectivement, je ne sais pas s'ils en ont vraiment parlé, et en fait, effectivement, ce n'est pas un casque qui est lié au Covid.
Non, le mot Covid n'est même pas dans le
C'est plutôt pour la pollution atmosphérique. On peut imaginer, par exemple, pour tous les cyclistes qui sont dans Paris, qui se tapent les diesels, etc., ça
oui,
pourrait...
mais vous n'avez pas le droit d'avoir de casque en vélo. Donc,
dans le métro, c'est vrai que l'air du métro est pollué, cela dit. Hein. Mais
Puis là, t'es sûr d'avoir une place assise.
Mais
parce que franchement,
une rame entière pour toi.
Mais là, t'es bien. Là, t'es
tranquille.
Je pense que il n'y a pas de problème.
Ça m'a
fait penser au. Je sais pas si vous souvenez du Nautilus Rift. Ça vous dit quelque chose, ça? C'était Ubisoft qui avait sorti ça. C'est une sorte de gadget, un truc que tu mettais sur le nez et qui t'envoyait des odeurs quand tu jouais à un jeu. Donc, c'était avec le côté complètement immersif. Et ça avait un petit peu le même look. Je me souviens que je l'avais présenté en plateau en disant bon, bah c'est sympa, mais après je me vois pas jouer, tu vois, 4 heures de suite avec ce machin sur la tête. Là, c'est pareil, je me vois pas me balader dans la rue avec ce machin, le Zone, hein, donc ça s'appelle le Dyson Zone.
Voilà,
ceux qui veulent aller voir, ça ressemble.
On a beaucoup de respect pour, je crois que c'est James Dyson, qui est un gars hyper visionnaire, franchement, qui a révolutionné l'industrie de l'aspiration. Enfin voilà, c'est.
Ah non, mais bien sûr, il n'y a pas de.
On va voir, il sens là-dedans, on est un peu dubitatif, on va dire, on verra bien.
Moi, ça me fait beaucoup rire.
C'est clair.
Dès que je le vois, je rigole. C'est quand même assez génial.
Vivement que ça arrive dans les rédacs, ce truc-là. On va se faire des selfies, les gars. Ça va être top. On va se régaler. Bon, merci beaucoup à tous les deux. C'était top.
Merci.
Bien sûr, comme à chaque fois. Merci beaucoup, Anthony Morel, qu'on retrouve tous les jours, évidemment, sur BFM Business et avec Estelle Denis sur RMC. RMC Story entre midi et deux, c'est ça?
Entre midi et deux à 13h, juste avant
13h. Et puis, on lit avec beaucoup d'attention 01net.com. Avec le patron de 01net qui est là, Eric Le Bourlou. Merci beaucoup.
Merci.
Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à réagir. Le hashtag DQJMM. Vous pouvez nous retrouver en podcast, bien sûr, sur l'appli RMC BFM Play. Portez-vous bien et on sera là la semaine prochaine. Salut à tous.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et 01TV.